présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. On est sur un bateau, on apprend à vivre ensemble, à être sociable. Donc, les marins, les officiers devront apprendre à diriger des navires les plus grands du monde, fabrication et propriété Genetou. Avec une machinerie ultra moderne, des commandes entièrement informatisées, avec une chaudière atomique. Elle sera guidée au laser. Le moindre obstacle fera dévier le bateau. Un programme de voyage sera mis sur ordinateur qui dirigera le bateau à sa destination, avec les escales prévues, guidées au laser pour les obstacles, des caméras dans tous les coins, ponts, lieux, coursives, salles de réunion, du personnel et des passagers. Dans toutes les salles, salles de danse, salles à manger, salles de spectacle, de sport, de jeu, salles pour les enfants, bibliothèque, école, vidéothèque, internet, etc. billard, fumoir, cabine sol, cabine pour plusieurs, appartement privé. Le tout découpé comme un hôtel Palace du 19e avec tout le confort. Le personnel aussi aura ses lieux en plus. Il aura sa salle de réunion syndicale, de détente, bureau, son coin de sport, de spectacle. Le personnel se trouvera au-dessus des chaudières du bateau et où il aura ses appartements privés et toutes les salles que nous vous avons dit. Au premier, ce sera la deuxième classe. Au deuxième, le bureau et salle de commande, ordinateur, etc. Au troisième, les premières classes. Tout est grand, immense. Oui, tout est immense. Les coursives, très larges. Les cours aussi. Le personnel pour aller d'un point à l'autre a de petites voitures électriques ou camionnettes pour amener des choses. Pour les passagers, il y a aussi des navettes et des voitures taxi. Le bateau est fait en acier spécial et doublé. Il y a les chaudières atomiques. Les déchets atomiques sont renouvelables et vont d'une chaudière à l'autre. On commence à mettre l'atome dans la première chaudière pour faire marcher le bateau. Ensuite, on met le déchet dans la deuxième chaudière pour le chauffage et l'éclairage, etc., etc. Ça va le déchet atomique va d'une chaudière à l'autre. Et puis le déchet, ensuite, ce qui reste du déchet, on le met dans un récipient qui sera évacué tous les 15 jours et ce déchet sera retraité à terre. À Lyon, Philippe s'apprête à rentrer chez lui. Il revient d'un concert rock qui se passait dans un sous-sol à Villeurbanne. Plus c'est pourri, mieux c'est. Il est minuit et Philippe est sorti du métro en pleine ville. Il continue son trajet à pied. Les rues sont presque désertes. Tout à coup, une voiture s'est arrêtée devant lui. En sort deux hommes qui vont vers lui. Ils sont habillés de costumes gris, taille moyenne dans les 30 ans, cheveux châtains. Les deux hommes le dépassent et l'arrêtent. « Monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. » Philippe les montre. Les hommes les regardent. L'un des hommes lui dit « Veuillez nous suivre. » Philippe demande « Y a quelque chose qui ne va pas ?» Un homme lui montre sa plaque. « Nous sommes de la police. » Philippe demande « Qu'ai-je fait ? Venez nous suivre. » Ils conduisent Galien vers la voiture et le font entrer. Il est derrière, entre les deux hommes. et la voiture file. Philippe demande : Nous allons loin ? L'homme lui dit : Pas plus loin que notre destination. Philippe voit que la voiture sort hors de la ville, en direction d'Oulin. Elle file vite. Elle n'a pas de sirène et est normale. Enfin, elle s'est arrêtée devant l'entrée d'un parc d'une eau déserte. Le chauffeur ouvre le portail. La voiture entre dans le parc. Philippe voit qu'au fond du parc, il y a une grande maison style 19e. La voiture s'arrête devant l'entrée de la maison. Descend de voiture. Il fait noir. Nuit de campagne. Philippe demande : Où sommes-nous ? L'homme ne répond pas. On monte le perron. On sonne à la porte. La porte s'ouvre. C'est un grand homme en costume noir. Il est chauve. L'un des hommes dit : Nous l'avons pris. Le grand homme leur dit : Il est au bureau. Il vous attend avec impatience. Galien voit qu'à l'intérieur de la maison, tout est sombre. Il y a un long couloir avec une rangée de bureaux vitrés, avec des portes vitrées qui donnent sur le couloir. Il voit que dans les bureaux, il y a des hommes, des femmes qui tapent à la machine. Les bureaux sont meublés comme dans un vieux film des années 50. Les hommes, les femmes sont habillés d'une façon stricte et triste. Costume tailleur, cheveux tirés, etc. Il y a sur des tables des tas de chemises. La lumière des lampes pendues à un fil donne une lumière jaune triste. Les cloisons entre les bureaux sont vitrées. Philippe demande : Où sommes-nous ? L'un des hommes lui dit : À destination, viens. Enfin, au fond d'un couloir, il frappe à une porte capitonnée. Entrez. Ils entrent. C'est un grand bureau sombre avec une table de bureau où se trouve un petit homme maigre, costume noir, à une petite table devant une machine à écrire se trouve une femme en tailleur noir. Où se trouvent sur le bureau des tas de dossiers, des piles de classeurs à terre, une bibliothèque qui déborde. La pièce est éclairée par une ampoule au plafond et une lampe de bureau. Le petit homme demande : C'est lui ? Un des hommes lui répond : Oui, c'est lui. Et il s'avance pour déposer au bureau les papiers d'identité de Philippe. L'homme les regarde et dit à Philippe : Asseyez-vous. Philippe s'assoit. Philippe demande : J'aimerais savoir pourquoi vous m'avez amené ici. Le petit homme lui dit : C'est pas à nous de répondre à vos questions, mais à vous de répondre aux nôtres. C'est la règle du jeu. Nom, prénom. Philippe Diap. La femme tape. Adresse. Route de Vienne. Quartier du Grand Trou. Numéro. J'habite chez mon père. Le petit homme lui dit,
« Je sais, nous savons tout. »
Philippe lui dit, « Eh bien, moi je ne sais rien. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un commissariat? Que se passe-t-il » John lui dit, « Qui vous dit que vous êtes dans un commissariat? Il y a des hommes qui vous surveillent? On vous interroge? Il y a une lampe qui vous éblouit ?» Il met la lampe vers lui. « Des bureaux? Des secrétaires? Vous n'êtes plus libre de sortir comme vous le voulez? Vous allez bientôt connaître nos cellules ?» Philippe demande, « Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Dit homme lui dit, « On fait tous quelque chose. » Et là n'est pas la question. Vous êtes diable, Philippe. On doit vous mettre en détention. On le fait. Philippe lui dit, « Mais on met pas en détention les gens comme ça ?» Le petit homme lui répond, « On s'y prend d'un autre moyen. Je ne le savais pas. » Philippe lui dit, « En tout cas, on dit pourquoi l'intéresser ?» Le petit homme lui répond, « Quand on le sait. Et si on ne le sait pas, on ne peut rien dire. » Philippe lui dit, « Si vous ne le savez pas, qui le sait ?» Le petit homme lui dit, « Ah, ça, je me le demande. Mais il y a bien quelqu'un qui vous a donné l'ordre de le faire. Je pense que oui. On a tous cet ordre à exécuter. Pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un qu'il faut isoler. Vous êtes dangereux. On vous reproche beaucoup de choses. Et quoi, par exemple ?» L'homme ouvre une pochette, en sort une feuille et dit, « Pas de mauvaise fréquentation de mettre des gens en danger. Moi ? Quoi ?» La petite femme qui tape lui dit, « Vous devez mieux le savoir que nous, puisque ce sont vos familiers. Assez tergiversé. Vous allez tout nous dire. » Philippe demande, « Quoi ?» Le petit homme lui dit, « Tout, tout ce que vous savez. Mais je ne sais rien. On a toujours quelque chose à dire. Dites-le nous. Mais je ne sais rien. Si je savais ce que vous voulez que je vous dise, je vous le dirais. Ne jouez pas plus fin avec nous. Parlez !» L'homme tape sur la table. Les deux hommes s'approchent de Philippe. Philippe demande, « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?»« Tout. Je ne sais rien. » »«
Il y a pourtant des gens qui savent tout. »
Philippe lui dit, « Pas moi.
Vous parlez ?»«
Je n'ai rien à dire. » »« Je n'ai rien à dire. Et vous-même, qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas des policiers ? Qui êtes-vous ? »
Nous ne sommes pas. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Que nous n'étions pas de la police.
Il tape du poing sur la table.
Cela suffit. Vous allez nous dire tout sur le corps.
Quel corps?
Le corps de celui qui a été enterré.
Je ne comprends pas.
Ne faites pas l'innocent. Le corps qui a été enterré. Vous le savez très bien. Vous pouvez bien me le dire.
Je me moque de la façon dont il était mort. Cela ne nous intéresse pas. Nous, ce que nous voulons, c'est retrouver son cadavre et les papiers qu'il avait sur lui.
Je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Des papiers d'une telle importance, d'une importance considérable, dangereuse, et vous ne savez pas.
Non, quel papier ?
L'homme Moses de Paul. Ils ont été enterrés avec le cadavre. Répondez.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Alors, on cache le cadavre et vous ne savez rien?
Vous vous moquez de moi?
Si l'on trouve le cadavre, on verra bien.
Mais dites-moi le nom du décédé.
L'homme lui dit, nous ne savons pas. Le bureau des états civils et des disparitions, des décès, à cet ordre est fermé. Ce qui fait qu'on ne peut vous répondre.
Philippe lui dit fatigué, ce qui fait que vous cherchez un cadavre et vous ne savez pas lequel.
Je lui dis, on enterre un cadavre et vous ne savez même pas qui c'est. Bon, l'interrogatoire est fini pour cette nuit. Elle reprendra la nuit prochaine.
Pourquoi la nuit ?
Parce que cette affaire est une affaire importante. Elle touche les secrets d'État. Emmenez-le dans sa cellule.
Deux hommes tapent sur l'épaule de Philippe, fatigué, le feu levé, sortir du bureau.
On le guide dans un dédale de couloirs plein de bureaux.
Fait descendre des escaliers. On ouvre une porte. Entrez. Il entre. C'est une petite pièce avec un lit en fer, un matelas, une couverture grise. La pièce n'a pas de fenêtre, juste un trou pour l'air. Une ampoule au plafond. La porte se referme derrière lui. Épuisé, il se couche sur le lit. Je cherche même pas à savoir ce qui lui arrive et s'endort.
Sommeil noir. Et petit à petit, des visages lui viennent. Il voit le visage de Galien, celui d'un jeune homme qui ne semble pas connaître, des papiers, des tonnes de papiers, une camionnette qui roule, qui roule, qui roule. Et il entend des voix. Il ne comprend pas. On le secoue. Il ouvre les yeux. Il voit du blanc, un blanc lumineux, de plomb. Un vieil homme, une vieille barbe. Les cheveux blancs, mal coupés. Qui êtes-vous ? Je lui dis.
Mais c'est Paul. Et toi ?
Où suis-je ?
Regarde par toi-même.
Il se soulève difficilement et voit qu'il est sous un pont. Mais qu'est-ce que je fais d'ici ? L'homme lui dit.
Tu dormais ? Une voiture. Une femme en voiture m'a fait signe de s'approcher, m'approcher et m'a dit « Allez, réveillez ce jeune homme. » C'est ce que j'ai fait.
Et la femme ?
La voiture est partie.
Quelle femme ?
Une belle femme, bien habillée de noir.
Philippe voit que sort de sa poche un bout de papier. Il le prend et lit. Nous n'avons plus besoin de vous. Nous avons retrouvé ce que nous cherchions. Il met le papier dans sa poche et dit « Quelle histoire !»
Entrez. Il retrouve sa mère qui est assise à table. Il va vers elle.
« Bonjour mère. »
Elle lui dit « Tu rentres bien tard. » Il s'assoit près d'elle.
Où étais-tu ?
Je ne le sais même pas moi-même.
Tu veux être encore ivre ? Ces concerts, ce n'est pas sérieux.
Dans la journée, il décide de raconter son histoire à Galien. Il va au bureau de son père.
S'assoit au bureau pour faire le numéro de téléphone de Galia.
Bonjour mademoiselle. J'aimerais parler à Monsieur Diap Galia. Je suis Philippe Galia. Oui, merci. Allô, Galia ? Je te téléphone. Je te dérange pas ? Il m'est arrivé une drôle de chose.
Et il lui raconte tout.
Galien lui dit
« Je suis comme toi, je ne comprends pas grand-chose à cette histoire. À moins que, peut-être, tu te souviens de Didier, le jeune homme qui a vécu quelque temps avec moi. Il est mort à Lyon et parlait de me montrer quelque chose. J'ai jamais su quoi. C'est peut-être le corps de Didier qu'il cherche. » Philippe lui demande « Pourquoi ?» Galien lui dit « Je n'en sais rien. » Philippe lui demande « Et où est le corps ?»« Je ne le sais même pas, il a été enterré à la Sauvette. » Philippe lui demande « Et les papiers ?»« Disparus. » Philippe lui dit « D'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont retrouvé le corps. » Galien lui dit « Où les papiers ?» Philippe lui demande « C'est grave ? Je n'en sais rien, mais si c'est le corps ?» Que vont-ils en faire ? Philippe lui demande. Que devons-nous faire ? Rien. Il ne faut qu'attendre. Surtout, ne bouge pas.
Une heure plus tard, Galien parle à Danfort. Danfort lui dit
« Je vais voir. Ne vous occupez de rien. C'est une affaire intime. On veut vous nuire. Mais ne craignez rien. Il n'y a qu'un élu. Et il l'est pour toujours. »
Galien lui dit « Jusqu'à la mort ?»
Danfort lui dit « La mort, ce n'est plus un obstacle. Votre ADN est immortel. »
Galien lui dit « C'est vraiment peu de choses. » L'enfant lui dit
« Avec ce peu, on peut tout. »
Et Galien n'a plus jamais entendu parler de cette histoire et n'ose pas en parler à Danfort. Le temps passe. Un de ses séjours au château, car il y va une fois par mois, ils y sont obligés à cause des domestiques. Chaque fois qu'il y va, il va voir le tableau. Ce tableau qui dort avec son secret. Mais lequel ? Il a beau le regarder,
et ne trouve rien. Un soir, pourtant, à la lumière artificielle, il croit voir sur l'habit de l'homme peint, quelque chose en relief.
Alors, il monte sur une chaise avec une lampe de poche.
Arrive à appuyer sur l'interrupteur du plafonnet pour mettre la pièce dans le noir et fait passer la lumière de la lampe de poche sur le tableau, sur l'habit de l'homme. Et là, il voit un relief en pointillé, légèrement plus épais, des lettres, des chiffres. Il touche et sent bien les lettres, les chiffres. La chose est presque imperceptible, presque invisible, car les lettres sont de la même couleur que l'habit, que la redingote. Vite, Galien rallume, décroche le tableau
et va le déposer sur une table. Puis, sort de la pièce pour aller chercher du papier et un stylo. Et revient. Éteint la lumière et s'assoit à table, à côté du tableau.
Il regarde le tableau en se servant de sa lampe de poche et de ses doigts. Il arrive à lire les sept soleils de l'élu. Il regarde bien et ne trouve rien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il retourne le tableau dans tous les sens, puis regarde les moulures du cadre et voit comme un point sur la moulure. À l'aide de la pointe de son stylo, il appuie dessus, ce qui ouvre un petit volet en haut du tableau. Tableau, à l'intérieur de ce volet se trouve un bout de papier plié délicatement. Il le sort. Décidément, ce tableau déplie tout doucement le papier qui a l'air bien léger mais est resté blanc. Il lit, écrit à la plume, à encre bleue, les sept soleils appartiennent à l'élu. Tout est à lui. Dieu lui fait donc sa création pour qu'il puisse reconstruire le paradis perdu. L'élu ne connaîtra jamais tous ses pouvoirs. Dieu ne le veut pas. Signé les sept soleils. Kalia se demande ce que cela veut dire. Regarde encore le tableau. Non. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il se dit. Il met le papier dans sa poche et le tableau en place. Je vais le faire passer au rayon X. On ne sait jamais. Ce n'est pas clair. Ça doit peut-être cacher quelque chose de terrifiant. Le papier a raison, on ne me dit pas tout. Et comme cache-t-on ? Si je le demandais à Danfort, il me raconterait n'importe quoi. Et je dirais des choses à côté. Et il décide de faire un tour dans le parc. Il fait beau et chaud. Il voit arriver à lui une vieille petite femme toute maigre, en cheveux blancs, habillée en robe noire. Elle marche avec une canne. Arrivée face à elle, elle lui dit
« Tu es le nouveau maître ?»«
Oui. »
« Fais attention à toi. Moi, je suis vieille. Il ne m'arrivera rien. Mais à toi, mon pauvre petit. »
Il lui demande « Pourquoi ne me dites-vous ça? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle lui dit
« Karine en savait trop. C'est pour cela qu'elle n'est plus. Et toi, tu es bien jeune et beau. Qu'est-ce qu'ils te veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses ?»
Comment ça lâche, je ne comprends pas. Elle lui dit.
Les jours où tu comprendras, ce sera trop tard. Regarde, monsieur jeune tout, il ne voulait pas tout ça. On lui a dit qu'il le fallait. Et alors il a laissé faire. Et tu as vu ce qui lui est arrivé. Tu es l'élu, toi. Tu peux dire non. Tu es l'élu. Tu peux pas dire non. Gaïa lui demande. Non à quoi? Elle lui répond.
À tout ça. Maintenant laisse-moi.
Mais qui êtes-vous? Moi rien. Je n'existe pas. Laissez-moi. Laissez-moi passer.
Où allez-vous?
Où je peux. Pas bien loin. Mes jours sont comptés, comme mes pas.
Et elle s'éloigne. Galette, Galien s'apprête à la suivre. Elle se retourne et lui dit
« Non, tu ne sauras rien. Rien de plus. Et tu ne verras rien. Adieu. »
Et elle tourne l'allée. Galien s'en retourne au château. Cette rencontre a troublé.
Arrivé dans sa chambre, s'assoit sur le rebord du lit
et se dit « Je risque la mort. On doit me surveiller. Je suis leur chef. » Il repense à ce qui est arrivé à Philippe et se dit « C'est peut-être un de mes concurrents qui cherche à m'intimider. » Ils se sont attaqués à Philippe parce qu'ils savent que je lui suis très attaché. Peut-être des Américains. C'est peut-être dangereux pour Philippe. Que faire? Peut-être que s'il était avec moi, il risquerait moins. Et si je lui proposais de partir avec moi? Tiens, pour aller quelques jours à Deauville. Si je lui téléphonais. Eh? Il fait le numéro de téléphone de Philippe.
Allô? Je suis Galien Diap. J'aimerais parler à Philippe, s'il vous plaît. Allô, Philippe? C'est moi. Si je te téléphone, c'est pour te proposer quelque chose. Ça t'intéresse d'aller à Deauville avec moi, nous reposer? On peut tirer à la fin de la semaine. Tu es d'accord? Oui. Bien, je suis très heureux. Je le dirai à Danfort. Nous partirons à Deauville. Tu n'as pas d'ennui? Fais attention à toi tout de même. Non, je n'ai rien, je ne sais rien. Allez, à vendredi matin, 9h. Je prends te chercher.
Et Galien prévient Danfort. lui demande.
« Vous restez combien de temps ?»
Galia lui dit. « Je ne sais pas, quelques jours. Le temps que je me change les idées, je pars avec Philippe. »«
Bien, monsieur. Tout sera prêt. »« Bien entendu, je pars avec vous. » »«
Oui, bien sûr. Mais si j'étais marié, vous seriez toujours avec moi ?»
Danfort lui répond.
« Oui, bien sûr. Pourquoi ?»
Rien, cela peut paraître un peu gênant, non?
Pas du tout. Vous êtes un peu comme un chef d'État. Regardez, ils sont toujours accompagnés. Que voulez-vous? Vous n'êtes jamais en cage. Et l'on peut avoir besoin de vous à tout instant.
Galien lui demande. Il y a une chose, c'est que j'aimerais savoir si les autres trouvaient que je leur nuise. Est-ce que vous serez de mon côté ou de celui des autres, de la société, du groupe?
L'enfant lui répond. Je ne peux pas être contre vous, vous êtes le groupe, et le groupe ne peut pas être contre vous.
Galien lui dit. Pourtant, des fois, j'ai l'impression que c'est le contraire. Pourquoi est-ce que l'on s'attaque à mes amis?
L'enfant lui répond. Vos amis ne sont pas vous, et il est probable que certains ont risqué, malgré eux, de nuire au groupe et bien entendu à vous-même. C'est pour cela que quelquefois on est obligé de faire certaines choses.
Galien lui dit. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre Didier, n'est-ce pas?
L'enfant ne répond pas.
Galien lui demande. Il aurait risqué à nuire? Comment? Qu'est-ce qu'il avait trouvé? C'était un garçon innocent, sans rien, ni connaissance, et qui m'était certainement très dévoué.
L'enfant lui dit.
Il vous manque.
Oui, et je me demande pourquoi on lui a fait du mal.
C'est peut-être aussi pour son bien.
Vous savez que Philippe, mon cousin, a été attaqué et séquestré.
Vous ne savez pas pourquoi?
Non, monsieur. Peut-être un de vos concurrents. Toutes les personnes de votre sang sont sacrées.
Galien lui demande. Vous ne savez toujours pas d'où vient le tableau de la chambre de Karine?
Non, monsieur.
Continuez l'enquête. Je suis très intrigué par ce tableau. Vous pouvez disposer. Oui. J'ai vu dans le parc une vieille femme, maigre, habillée de noir. Vous voyez qui c'est?
Oui, c'est une ancienne femme qui venait aider aux lessives tous les mardis au château. Maintenant, elle est vieille et un peu gâteuse, mais nous la laissons aller venir à sa guise. Pauvre femme. Elle vit toute seule. Elle ne vous a pas ennuyé?
Non, pas du tout. Je me demandais simplement qui elle était. C'est vrai qu'elle paraît bien vieille et usée. Vous pouvez disposer. Merci.
Bien, monsieur.
Et Danfort quitte le bureau du château.
Et le vendredi matin, il est parti avec Danfort pour prendre Philippe à Lyon et aller à Deauville. Durant le trajet, Danfort lui dit
« J'aurais pu prendre l'avion. »
Galia lui dit « Nous avons le temps. » Arrivés à Lyon, ils vont directement chez Philippe. Le père de Philippe les reçoit au salon.
Il dit à Galien, « Tes parents sont furieux. Ils savent que tu es à Lyon et que tu ne vas même pas les saluer. »
Galien lui dit, « J'ai juste le temps de prendre Philippe. »
Son oncle lui dit, « Il n'y a pas que Philippe dans la famille. C'est gentil de penser à lui. Mais les autres membres de ta famille et ta mère. »
Galien lui dit, « J'irai la voir à mon retour. Je ne fais rien de mal. C'est par manque de temps. Allez, il faut que je te quitte. À dans une semaine. » Il embrasse son oncle. « Tu les embrasseras pour moi. »
Galien est gêné. Chaque fois qu'un membre de la famille lui fait des réflexions, c'est devant d'enfort.
Le trajet se passe sans histoire. Il est toujours difficile de trouver de l'essence, elle est très chère. Il n'y a presque pas de circulation.
Arrivé à Audeville, chacun va dans sa chambre se changer, se reposer un peu.
Puis, on se retrouve au salon avant le dîner.
Ils sont assis tous les trois dans des fauteuils, un verre à la main.
Galien dit à Philippe, « J'ai réfléchi à ton histoire et je pense que ce sont les Américains qui cherchent à m'intimider. Nos entreprises rattrapent le retard que nous avons eu. Ils ont peur de la concurrence, surtout par nos brevets, beaucoup de plantes et de bactéries. Nos explorateurs du XXe siècle, comme je les appelle, font du très beau travail et n'hésitent pas à aller dans les contrées les plus reculées. Avec notre système d'hélicoptères qui les suit pour prendre leurs échantillons et leurs écrits, pour les mener d'urgence dans nos laboratoires et les mettre en brevet. Ça va très vite et en ce moment nous sommes les meilleurs du monde. C'est ce qui fait peur aux Américains. Mais ne t'en fais pas. J'ai demandé à M. Lenfort, c'est de te faire protéger.
M. Lenfort le dit, nous vous protégerons discrètement.
Philippe lui dit, merci. Et cette histoire de cadavre, Galien lui dit, ils ont dû apprendre la mort de Didier et ont voulu te faire peur. M. Lenfort s'occupe aussi de tout ça. Malgré tout, Galien est ennuyé pour Philippe. Il se dit que par sa faute, il risque peut-être sa vie.
On frappe à la porte. Entrez. C'est le domestique.
Le repas est servi, monsieur. Bien, nous arrivons.
Et il se lève pour aller à la salle à manger.
Galien et Philippe ne peuvent faire chambre commune à cause d'Amphore et des domestiques, quoique d'Amphore doit connaître leur vraie liaison, mais fait celui qui ne sait rien. Alors, Galien demande à Philippe de venir avec lui se promener sur la plage avant d'aller se coucher. Mais il faut qu'il le dise à D'Amphore. Alors il dit à D'Amphore,
« Vous n'êtes pas obligé, c'est de nous suivre. Nous allons sur la plage et marcher un peu. Nous reviendrons dans une heure à peu près. »«
Bien, monsieur. Mais si vous n'êtes pas là dans 3 heures, je vais vous faire rechercher. Attention aux marées !»
Galien lui dit, « Merci, nous serons en haut, sur le rocher. »
Et il sort.
Galien, une fois dehors, fait « Ouf !» Philippe lui dit, « Il aurait jusqu'à surveiller ton lit. D'ailleurs, c'est presque ce qu'il fait. Tu peux même pas recevoir quelqu'un dans ta chambre. Plus de vie privée ?» Galien lui dit, « Et oui. » Il se dirige vers la mer. Le temps est doux. L'on entend le bruit des vagues.
Philippe lui demande, « Tu n'en as pas marre de cette vie ?»«
Un peu, oui, mais je ne peux pas me demander une démission.
Viens, allons là-bas. »
Il le mène dans un creux du rocher. Une fois dans le creux, d'un geste brusque, il le couche à terre et le couvre de son manteau. Il voit les étoiles dans ses yeux. Il caresse ses cheveux et lui dit, « Tu m'as beaucoup manqué. » À moi aussi. Galien lui dit, toutes les nuits je pensais à ton corps, à la douceur de ta peau. J'y pensais tellement que j'avais l'impression de te toucher.
Et il touche la joue, puis descend la main sur la poitrine.
Philippe ne dit rien. Galien voit qu'il est calme, sa respiration est à peine perceptible. Galien lui écarte les jambes et se plaque contre lui, lui donne des baisers sur le visage et sur les lèvres. Philippe lui caresse le dos et lui dit, « J'ai envie, c'est que tu me fasses jouir comme lorsque nous avions 14 ans. » Et Galien... Censure.
Deux heures plus tard,